Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, plus que jamais sur la brèche en cette fin octobre. Si les vacances dites de la Toussaint ont commencé, les saisons de concerts ne font pas relâche et plusieurs événements musicaux vont avoir lieu dans les deux semaines à venir. Cela étant, avant de parler de l'actualité des prochains jours, nous allons d'abord revenir sur deux productions passées, toutes deux à l'Opéra National du Capitole, Rusalka et Daphnis et Alcimadur. Pour m'assister dans cette tâche, je retrouve à mes côtés Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir deux invités d'honneur, Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, et Bettina Sadou, présidente du comité des concours de musique des Onta Clubs de France. L'un de ces concours, celui de la flûte traversière, a lieu le 6 novembre à Toulouse, et la présidente du jury, eh bien, c'est Sandrine Tilly. Nous allons vous expliquer tout ça en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, nous avons rendez-vous avec Robert Pénavert pour notre habituelle rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les quatre, merci d'être fidèles à Mélomanie. J'avais annoncé la semaine dernière à nos auditeurs que nous ne manquerions pas de revenir sur la production de Rusalka à l'Opéra National du Capitole, l'opéra d'Anton Dvorak qui a été donné lors de 5 représentations et nous avons eu tous l'occasion d'assister à l'une d'entre elles. À la dernière en ce qui me concerne, je rappelle que la mise en scène était signée Stefano Poda, que la direction musicale était assurée par Frank Berman et que la soprano roumaine Anita Artig interprétait le rôle titre, c'était même une prise de rôle pour elle. Personnellement, j'ai le sentiment que cette production et cette entrée au répertoire, parce que c'en était une, feront date dans l'histoire du théâtre du Capitole. Est-ce que c'est aussi votre avis, Robert ?
Oui, bonjour. C'est totalement mon avis parce que j'ai été rarement autant subjugué, autant au sens propre du terme, par cette production. L'œuvre, bien sûr, nous la connaissons, c'est une œuvre magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Mais cette production qui a permis à l'œuvre de faire son entrée au répertoire du Théâtre du Capitole, parce que c'est une vraie entrée au répertoire dans la mesure où la production est maison, ce qui veut dire que bon, ben, si dans 3, 4 ou 5 ans, le Capitole veut reprendre cette production, ça sera vite fait. Voilà, donc c'est littéralement magique. Alors, il faut dire, moi, d'abord, je tiens, pardon, mais ça ne se fait pas trop, mais à remercier le directeur du Capitole, Christophe Grissi, parce que quand même, la réunification de tous ces talents, l'idée de programmer Rusalka, alors il faut dire que Nicolas Joël avait eu cette idée, et il n'a pas eu le temps, puisqu'il a été nommé à l'Opéra de Paris, avant de pouvoir réaliser cette entrée au répertoire lui-même. Mais donc, l'idée et la réunion de tous ces talents, ben, tout cela, nous le devons à Christophe Grissi et je tenais vraiment à le souligner.
Bon, qui alors, en plus a pris le risque de le programmer en ouverture de saison.
Oui,
pas en cours
oui,
de saison.
Bien sûr,
c'était quand même un risque supplémentaire.
Alors c'est vrai, mais vous avez raison, Eric, parce qu'en fait, c'est vrai, quand on regarde d'autres théâtres, Milan, New York, Londres, etc., les ouvertures de saison se font avec des blockbusters.
Mais oui.
Alors Nabucco, Aïda, Rigoletto, plutôt de l'italien, ou quand c'est de l'allemand très connu, genre Lohengrin, ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, Rusalka, entré au répertoire, donc, a priori, peu de Toulousains connaissaient l'œuvre. Mais s'il est vrai que le soir de la première, le Capitole n'était pas plein, dès la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, vous le savez aussi bien que moi, puisque nous avons eu l'occasion d'assister aux représentations finales, c'était plein,
archi plein. Et un enthousiasme extraordinaire dans la salle.
Ah oui, avec des ovations, debout, un enthousiasme qui fait plaisir, parce qu'en fait, ce que l'on peut dire en dehors de tout, c'est que le public revient. Et c'est important de le souligner. Alors j'ignore, parce que je ne fréquente pas trop la Halle aux Grains, donc je ne sais pas trop ce qui se passe pour les concerts, mais dans tous les cas, au Théâtre du Capitole, le public est revenu incontestablement.
Oui, depuis l'an dernier, c'est très clair, et ça s'est encore affirmé, je dirais, en ce début de saison, parce que le bouche-à-oreille, en fait, a marché immédiatement.
Immédiatement. Voilà. Mais il faut dire qu'il y avait de quoi.
Bah, il y a eu le choc esthétique et artistique, je crois. Voilà.
Voilà.
Ça ne s'invente pas et ça ne se refuse pas non plus, d'ailleurs.
Quand même, il faut en venir. Donc, il y a deux maîtres d'œuvre, évidemment. Alors, très clairement, j'ai assisté à la première et à la quatrième. Très clairement, je n'ai pas tout à fait entendu le même spectacle. J'ai vu le même, mais pas entendu tout à fait le même. Le soir de la première, stress de la première, c'est bien connu. Stress des prises de rôle.
Oui, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de prises de rôle.
Il y avait beaucoup de prises de rôle.
C'est pour ça que je dis qu'il y avait vraiment beaucoup de prises de risque,
pour prendre une autre expression,
dans cette ouverture de saison, avec cette œuvre et avec ces chanteurs qui, pour la plupart, prenaient leur rôle le soir de la première.
Voilà. Et vous allez voir, pour ceux qui, malheureusement, ne l'ont pas vu, vous allez voir, nous allons vous décrire un peu dans quelles conditions ils ont pris ces rôles-là.
En plus.
C'est unique dans l'histoire de l'opéra. Bon, nous allons y venir. Donc, le soir de la première, il faut reconnaître que l'orchestre n'était pas tout à fait...
En place.
On va dire en place, il y avait des décalages, il y avait surtout une harmonie, un équilibre fausse plateau qui n'était pas vraiment convaincant, obligeant les chanteurs à pousser un peu, l'orchestre les couvrant dans les registres médians et graves. Voilà, c'était pas tout à fait ça. Donc, alors, si vous voulez bien... Je vais vous parler de la quatrième représentation, parce qu'enfin, c'est ça qui est important.
Oui, oui.
Ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, les chanteurs, c'est ce qu'ils nous ont présenté.
Allons
après.
Tout de suite au meilleur.
C'est ce que vous avez entendu également.
Moi, la dernière, j'étais, j'étais bien servi, oui, effectivement.
Voilà. Donc, d'abord, l'orchestre, c'est quand même sous la direction de Frank Berman. Frank Berman qui connaît la salle quand même, parce qu'il a dirigé la flûte enchantée, Electra, Parsifal. C'est lui qui va nous diriger Tristan. En 2023, donc il connaît la salle, il connaît l'orchestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Bon, bref, peu importe. Mais par la suite, les choses sont bien planifiées, se sont bien réglées et il y avait une osmose parfaite entre l'orchestre, la fosse et le plateau. Et puis, il y avait cette production de Stefano Poda. Alors, rappelons que c'est lui qui avait mis en scène la création à Toulouse, la création in loco évidemment, de
Ariane
et Barbe Bleue de Paul Dukas.
Oui.
Alors déjà, nous avions une idée de l'esthétique de ce metteur en scène, également costumier, il est également décorateur, il s'occupe également des lumières, donc en gros il fait tout.
Et ça c'est vu d'ailleurs.
Mais finalement... C'est un tout extrêmement cohérent.
Mais voilà.
Voilà. Alors, vous savez l'histoire, on ne va pas y revenir, mais c'est l'histoire Roussalka, c'est l'histoire d'une Ondine, c'est l'histoire de la petite sirène, en fait, d'Andersen. Mais c'est vu côté, non pas Disney, mais côté conte d'Andersen original. C'est-à-dire, en fait, ça finit mal.
Bah, c'était vraiment un drame. C'est un drame.
Bah, c'est un
vrai drame lyrique, là.
Voilà, voilà, absolument. Donc, tout ça pour dire que ça se passe dans un milieu aquatique.
Eh oui.
Puisque la petite sirène...
Comment reconstituer un milieu aquatique dans un opéra?
Alors, l'ouverture du rideau nous met devant un plateau du Capitole à plat, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un lac. Et dans ce lac, il y a des créatures fantastiques, évidemment. Ce sont des ondins et des ondines qui nagent. Voilà, on les voit, il y a de l'eau partout. Et puis, il y en a même qui disparaissent sous les flots.
Qui plongent, oui.
Qui plongent devant nous. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette scène? C'est pas possible. Bon, en fait, pour dire la réalité des choses, il y avait au centre du plateau, il y avait une fosse. Mais la fosse qui devait faire à peu près 1m60, 1m70 de profondeur, ce qui est déjà énorme, ne couvrait pas, évidemment, l'ensemble du plateau. Au point de vue poids, ça n'aurait pas tenu. Mais donc, ils sont arrivés à créer cette illusion, Stefano Poda, d'être devant un lac, avec des éclairages absolument fantastiques, des jeux de lumière extraordinaires. Mais vraiment, et tout c'est parce qu'en fait, tous ces ondins et ondines sont des danseurs, qui n'étaient pas nus, mais que l'on pourrait imaginer nus, mais ils avaient des vêtements
des combinaisons.
Relativement flottants et transparents. Mais on était complètement dans un conte de fées.
Oui.
Ça crée une ambiance mais qui fascine immédiatement parce qu'on est devant un conte de fées, un livre que l'on vient d'ouvrir. Et là-dessus, évidemment, il va y avoir cette merveilleuse musique et il va y avoir ces rôles fantastiques qu'a écrit Antonin Dvorak. Alors, venons-en à Serolles. D'abord, l'entrée en scène se fait avec trois ondines, en définitive, qui rappellent un peu, même dramatiquement, ce qui se passe avec le prélude de la tétralogie de Richard Wagner, dont il y a les trois filles du Rhin. Alors, je sais bien que certains disent non, ça n'a rien à voir. C'est quand même un peu troublant, parce que leur manière de chanter à l'unisson ou séparément, la façon que l'Ondin, le roi des Ondins, essaie de les conquérir un peu, ça rappelle un peu Albéric. Et, bon, enfin, il n'est pas de bon ton de faire ce rapprochement. Je le fais, je n'ai pas honte, et peu importe si je me trompe. Bon, déjà, ces trois rôles que l'on peut qualifier malgré tout de secondaires, malgré la difficulté, sont chantés admirablement par Valentina Fedeneva, Louise Faure et Svetlana Lifar. Elles font un saut de beauté vocale, d'unisson, de virtuosité, de souplesse, parce qu'elles aussi, elles chantent, elles sont dans l'eau jusqu'au cou.
Très très beau.
Et ce n'est pas une expression triviale que j'emploie.
J'imagine la difficulté qu'il y a à chanter dans ces conditions tout de même. Mine de rien, pendant près de 3 heures.
Voilà.
Pas pour tous, bien sûr, mais tout de même.
Pas pour tous, mais pas loin.
Et durant 5 représentations.
5 représentations. Alors évidemment, bon, l'eau n'était pas à 15 degrés.
Je crois que le premier soir, c'était un petit peu frisqué, d'après ce que j'ai compris. Ils ont trouvé une solution pour que... Bon, ils ont été aidés aussi par le climat qu'on a eu pour un début octobre,
qui était
quand même d'une douceur incroyable.
Oui, tout à fait, oui. Alors, du coup, comme ils ont un peu chauffé au fur et à mesure des représentations toute cette eau, c'est vrai qu'à la 4e représentation, au Théâtre du Capitole, on était un peu dans un sauna. Mais en fait, peu importe. Franchement, au contraire.
Il n'y avait rien d'insupportable.
Non. Puis ça ajoutait un peu à l'étrangeté de cette représentation. Alors justement, on parlait du roi des Ondins. Dans l'opéra, il s'appelle Votnik. Il est le père de Rusalka. C'est un jeune baryton russe qui s'appelle Alexei Isaev. Retenez bien ce nom, puisque... On peut l'annoncer ici, je crois, Eric.
On le reverra, oui.
Voilà, on va le revoir très prochainement et fort heureusement au théâtre.
Moi, il m'a complètement bluffé, moi, ce chanteur.
Dès les premières
notes.
Dès qu'il a commencé à chanter, d'abord, lui aussi était dans l'eau.
Ah oui, oui.
On voyait que la tête.
On le voit plonger. Enfin,
voilà, mais...
J'ai très jeune, hein, il a 28 ans. Hein.
Oui, il a 28 ans.
Sous son costume, on ne le dirait pas, parce que...
Ah ben non, puisqu'il est le papa de Rusalka. Mais sur le coup, j'ai cru, je vous jure, Eric, qu'il était sonorisé.
Ah oui, ça, c'était impressionnant.
C'est une voix... Alors, c'est un baryton basse.
Oui.
Voilà, plutôt que basse. Hein, mais c'est un baryton basse qui coche toutes les cases.
Il n'avait aucun problème à passer par-dessus l'orchestre.
De cette partition. Alors, non seulement il n'avait pas de problème à passer par-dessus l'orchestre, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais à un moment, au deuxième acte, vous le voyez plonger littéralement de toute sa hauteur et il disparaît sous l'eau, sur scène. C'est littéralement, d'ailleurs, chaque fois dans la salle, on entend un « waouh » en se disant, mais... Et en plus, il retient sa respiration, on le voit pas réapparaître, on se dit, mais où il est passé ? Voilà. Et puis bon, au bout d'un moment, quand même, on le voit réapparaître. C'est stupéfiant.
De bout en bout, il est bluffant.
Ouais. En même temps, c'est pas que du clinquant, il y a du sens. Chaque fois, il y a du sens. Donc, Alexei Isaev, vraiment un nom à retenir. Sa fille, l'héroïne, le rôle-titre, Anita Arti, que nous connaissons à Toulouse, puisque la première fois elle chantait Marguerite de Faust, de Gounod, et c'était une prise de rôle pour elle. Et la dernière fois, c'était Violetta, de La Traviata. Et puis, petit à petit, on voit bien que la voix prend de l'assurance, prend de l'ampleur.
L'ampleur aussi, oui.
De la musicalité également. Et le soir de la 4e, elle nous a chanté une Rusalka absolument magnifique, la fameuse, ce qu'on appelle la chanson à la lune est un moment magique.
Ah oui,
j'aurais aimé qu'il ne s'arrête jamais.
Je pense qu'on était beaucoup là, pour la 5e, c'était pareil, à se dire « Oh, elle pourrait presque faire un bis, personne n'aurait rien dit, je crois. »
Oui, voilà. Mais en définitive, le chef ne tenait pas à ce qu'il y ait des applaudissements parasites.
Oui. Ah oui, tout à fait.
Donc, il a enchaîné directement de façon à ce que le public, qui déjà devait avoir les mains levées pour applaudir, n'a pas pu le faire, mais il ne s'en est pas privé à la fin du spectacle, je vous rassure. Donc voilà, Anita Artig également, beaucoup de musicalité, elle maîtrise parfaitement.
Beaucoup de présence aussi
sur scène, voilà. Ensuite, il y a d'autres rôles, il y a le rôle de la sorcière, qui est un rôle très important, vocalement, dramatiquement. Le soir de la première, c'est vrai que c'est une mezzo-soprano britannique qui s'appelle Claire Barnett-Jones, qui venait remplacer, malheureusement, je serais tenté de dire, Janina Bechle, qui était prévue et qui, à mon avis, quand même, pour moi, avait davantage la voix pour chanter pour ce rôle, parce que c'est un rôle de mezzo, non pas soprano, mais contralto. Donc, résultat, bon, merci à Claire Barnett-Jones d'être venue malgré tout, parce qu'elle a sauvé les représentations. Ah oui. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de titulaires de ce rôle-là. Cela dit, cette jeune mezzo a fait une interprétation, une incarnation scénique formidable. Bon, on peut passer sur un médium relativement...
Je trouve qu'elle a fait une prestation très honorable.
Très, très honorable, oui, absolument. Elle nous a fait passer le frisson, parce qu'il faut dire que le metteur en scène l'a gâté, parce qu'il y a fait un costume absolument terrifiant.
Effrayant.
Effrayant. Voilà, non, mais c'était formidable. Alors ensuite, il y a d'autres rôles, bien évidemment. Il y a le prince, le prince charmant, on va dire, mais qui n'est pas charmant au sens Disneyland du terme. Hein. Donc c'est un jeune ténor polonais, lui aussi, il n'a pas 30 ans. Il s'appelle Piotr Bujewski. Et alors, d'entrée, ce qui frappe, c'est le timbre de cette voix, qui est un timbre, c'est un métal qui est très lumineux, qui est aveuglant, qui est solaire et qui lui aussi, parce que l'orchestre m'avait une facilité déconcertante. Il a une voix qui est très longue, parce que lui, il ne faut pas oublier que le compositeur lui a réservé un contrut au troisième acte, qui franchement n'est pas facile à donner. Donc Piotr Bujewski, une très belle découverte également. Béatrice Uria Monzon, qui s'investit avec beaucoup de volonté, qui chante La princesse étrangère. Le soir de la quatrième, elle a fait un tabac, mais absolument monstrueux. Elle a une présence, une voix... Béatrice Uria Monzon, comme nous la connaissons.
Et puis elle avait vraiment le physique du rôle, j'ai trouvé ça, lui allait très bien.
Elle était vipérine, comme elle sait l'être. Sur scène, il faut se souvenir de ses Carmen. Et ensuite, un mot quand même pour Gabriel Bourgoin, qui officiellement dirigé pour la première fois en tant que chef titulaire maintenant, directeur des chœurs et de la maîtrise également de l'Opéra National du Capitole. Ben, évidemment, les interventions ne sont pas très nombreuses, mais très délicates à faire musicalement, et il s'en est sorti admirablement. Voilà, une entrée au répertoire fastueuse, somptueuse, les adjectifs me manquent.
Et puis on a déjà envie de vite la revoir, cette production, je ne doute pas qu'on la reverra dans les années qui viennent, alors peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, mais c'est très probable. Il n'y a pas d'air de la production de Rosalka au Capitole disponible pour l'instant, mais j'ai tout de même ce petit extrait joué par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman à vous faire écouter. Un extrait court, certes, de Rosalka, l'Opéra National du Capitole, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman, qui nous permet de clore en beauté ce retour sur cette superbe production de l'Opéra de Dvorak, qui, je le répète, fera date et qu'on devrait revoir d'ici quelques années à Toulouse. On peut même en prendre le pari. Un autre événement a eu lieu à l'Opéra National du Capitole, en même temps que Rosalka d'ailleurs, la recréation à Toulouse de Daphnis et Alcimadure, l'opéra de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, lors de deux représentations. C'était les 12 et 13 octobre par l'Orchestre des Passions de Montauban et le Chœur Les Éléments, et puis des solistes aussi, on va en parler. Tout ce petit monde était placé sous la direction de Jean-Marc Andrieux, un opéra en version concert et en occitan. Je le rappelle, à l'exception de son prologue chanté en français. Pour être tout à fait juste, il faut préciser que la première de cette production a été donnée le 1er octobre au théâtre Olympe de Gouges à Montauban, en ouverture du festival Passion Baroque. J'ai déjà dit dans cette émission, il y a 2 semaines, tout le bien que j'avais pensé de ce que j'ai entendu à Montauban. Robert, vous avez assisté à l'une des représentations toulousaines. Quelles ont été vos impressions ?
Oui, effectivement, à la deuxième représentation, comme pour vous, Eric, c'était une découverte, j'imagine.
Totalement.
Et une découverte magnifique. Alors, je sais que Rousseau disait à propos de cette œuvre, on se sent ému sans savoir pourquoi. Alors, moi, je sais pas. Moi, je sais pourquoi j'ai été ému.
On peut savoir, a priori, quand même. Hein.
On peut savoir, voilà. D'abord, parce que l'œuvre est magnifique. Et puis, pour nous, Toulousains, quand même, elle nous interpelle un peu.
Ben ça se passe dans la région toulousaine, l'action se passe dans la région toulousaine.
Voilà, hein. le prologue, c'est quand même Dame Clément Cisor, n'oublions pas. Et puis vous venez de dire qu'effectivement, les 3 actes sont chantés en occitan, sauf évidemment le prologue, qui le prologue, lui, est chanté en langue d'oïl, j'imagine qu'à cette époque-là,
on disait la langue d'oïl.
Comme ça.
Voilà. Donc le prologue est en français.
Voilà. Donc Dame Clément Cisor, rappelons-le, fondatrice des Jeux Floraux de Toulouse et patronne de la langue donc également. Bon, cocorico, ça y est, c'est fait. Maintenant, passons au spectacle. Alors d'abord, c'était un grand rêve de Jean-Marc Andrieux depuis pas mal d'années, à tel point qu'il s'est investi et qu'il a complété la partition, puisqu'il n'y en avait que des petits bouts à sa disposition, en particulier en termes d'orchestration. Et il a réuni, alors premièrement, le spécialiste numéro 1, c'est bien sûr lui. Deuxièmement, il a associé son orchestre Les Passions. Et troisièmement, un chœur dont on n'a plus à chanter les louanges, le chœur dirigé par Joël Suibiette, les éléments qui sont reconnus comme un chœur de référence dans ce répertoire-là au niveau européen. Et donc, nous sommes très clairement en présence de virtuoses de ce répertoire. Alors, les solistes, dont Dame Clément Cisor, elle a quand même, dans le prologue, elle a pour mission de publier un véritable manifeste disant que le badinage entretiendrait la flamme de l'amour. Donc on imagine peut-être une interprète un peu plus investie que Hélène Lecor. Hélène Lecor l'a chanté admirablement, mais de manière très académique. Enfin, on aurait aimé un peu plus de passion, quoi. Un peu plus de vibration.
D'autant plus qu'il s'agit de Clément Cisor. On aime imaginer Clément Cisor.
Voilà, autrement comme quelqu'un
de très passionné, voilà. Enflammé.
Voilà,
même.
Voilà. Bon, cela dit, c'est plus que bien ce qu'elle a fait. Bon,
ah oui, vocalement, il n'y a rien à dire.
Voilà. Après, il y a 3 rôles. C'était donné en version concert, rappelons-le. Mais malgré tout, il y a Daphnis, qui est un berger, qui est dévolu en haute contre. Et cette fois-ci, pour cette recréation, littéralement, c'est le haute contre François-Nicolas Gélot qui l'interprète. Et malgré que ce soit en version concert, il a été très actif scéniquement. C'est lui qui a fait passer beaucoup d'émotions. Et c'est une merveille de tous les instants. Son chant est totalement irréprochable, non seulement en termes de virtuosité, de style, mais aussi, je le dis, je le répète, dans l'émotion qu'il sait faire passer. Son Alcimadure, qui est vraiment une personne très, très stricte, très...
Un peu
hautaine, oui, voilà. Bon, bref, on appelait ces voix à l'époque des dessus, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des sopranos. C'est Élodie Fonard, elle a une voix très vaillante, elle, très charnelle. Alors, elle sait rendre les accents hautains, évidemment, et moqueurs, qui vont précipiter ce pauvre berger dans des abîmes de sans fond, de tristesse. Mais elle sait le faire, elle le fait très bien, et on y croit. Elle est véritablement le personnage, jusqu'à la fin, où évidemment, il y a une fin qui se termine très très bien. Et puis ensuite, il y a un troisième rôle, qui, à vrai dire, je crois, Eric, c'est votre cas, comme moi.
C'est la grande révélation.
C'est la grande révélation, c'est ce qu'on appelait...
Enfin, pour nous, je pense que certains le connaissaient déjà.
On appelait un taille à l'époque, c'est-à-dire un ténor. Il s'appelle Fabien Yon. Il est tout jeune, il a pas 30 ans, et de toute manière...
28 ans, voilà. Je crois. Enfin, oui,
alors, le timbre est totalement solaire, la projection est très percutante, elle est très dynamique, le musicien est très habile, il sait faire plein de nuances, il est malin sur plein de points. Et lui, bon, dès qu'il intervient, ça prend une ampleur véritablement lyrique et opératique. Alors, peut-être même un peu au-dessus de ce qu'a écrit Mondonville, n'ayons pas peur le dire. Mais
on ne va pas s'en plaindre.
On ne va pas s'en plaindre. Et très clairement, il nous a fait vibrer, lui. Franchement, il nous a fait vibrer dans un rôle un peu de manipulateur, et malgré tout, mais manipulateur pour la bonne cause. Voilà. Alors, de même que le baryton russe, on peut dire que Fabien Hillon...
On peut annoncer qu'on le reverra.
Nous le retrouverons prochainement au Théâtre des Capitoles, parce que Christophe Grissi ne peut pas passer à côté de... D'un tel talent. Voilà. Oui. Alors... longuement ovationné par le public. Donc, en fait, le Capitole n'arrête pas d'enchaîner des ovations debout, des applaudissements sans fin.
Oui, de vrais succès, pour ne pas dire des triomphes.
Des triomphes, on peut le dire, des triomphes.
C'était bien rempli, je crois, quand même, parce que, bon, c'était aussi un pari de faire un opéra en Occitan.
Sur la deuxième, il y avait plus des trois quarts de salle.
Oui, donc c'est bien.
Pour une œuvre comme ça, baroque, qui n'était pas évident de donner en version concert, qui était inconnue.
En version concert, effectivement. Le public suit, et puis aussi parce qu'il y a de la qualité, tout simplement.
Oui, bien sûr.
On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, vous le savez.
Absolument.
Puis bon, je voulais dire un mot quand même sur la partition de Mondonville, qui est magnifique. C'est une très très belle musique. Hein. Moi, pour moi, il y a des choses qui sont du niveau d'un Rameau. Hein.
De Rameau, largement, et même des choses qui sont un peu en avant-garde quand même pour cette époque-là. Ouais. N'oublions pas que ça a été écrit en plein milieu du XVIIIe siècle. Hein.
Absolument.
Voilà.
Magnifique réussite. Donc voici un extrait de Daphnis et Alcimadure dans la version dirigée par Jean-Marc Andrieux, un air de Jeannette chanté justement par Fabien Hillon avec le chœur Les Éléments suivi d'un tambourin. Un air de Jeannette chanté par Fabien Hillon avec le chœur Les Éléments suivi d'un tambourin, extrait de Daphnis et Alcimadure version Passion de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux. Très belle réussite encore que cette recréation de l'opéra de Mondonville à l'initiative de Jean-Marc Andrieux qui n'a jamais lâché le morceau parce qu'il y a eu des obstacles quand même pour arriver à la montée cette production. J'espère qu'elle sera vite reprise elle aussi dans d'autres salles de notre région. Elle le mérite amplement. Une autre première toulousaine très attendue a eu lieu vendredi dernier à la Halle aux Grains, celle du très jeune chef finlandais Tarmo Peltokoski à la tête de l'Orchestre National du Capitole. L'assistance était nombreuse pour découvrir celui que l'on présente comme la nouvelle petite merveille de l'école de direction finlandaise, qui en a produit beaucoup depuis deux ou trois décennies, était invité aussi à ce concert un autre jeune musicien de grand talent, le violoniste américain Chad Hoops. Serge, nous étions tous les deux présents, et je crois que là encore, nous avons assisté à un grand moment de musique qui pourrait être l'acte fondateur d'une nouvelle ère pour l'Orchestre du Capitole. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Votre avis sur cette soirée et ses acteurs, Serge?
Eh bien, j'ai écrit un article dont le titre est stupéfiant. parce que c'était véritablement stupéfiant. Ce jeune chef est incroyable. Alors, je voudrais dire que la qualité de sa direction n'est pas simplement une conséquence de sa jeunesse. Je veux dire, il aurait 50 ans et il dirigerait comme ça, ça serait tout aussi génial. Il ne faut pas dire il est très bien pour son âge. Non, il est tout simplement excellent. Alors, l'orchestre avait fait sa connaissance le 9 septembre dernier, pendant le festival Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Hein. Et donc, déjà, le courant était bien passé. Et donc, ce jour-là, le 21 octobre, c'était la première à Toulouse. Et il faut reconnaître que ça a créé un véritable séisme dans le public. J'ai rarement vu assister à des concerts avec un tel accueil. C'était délirant. Alors, à quoi tient ce succès? Ben, tout d'abord, évidemment, à la personnalité du chef, à son charisme, et puis aussi au violoniste. Hein, je vais en dire aussi quelques mots, bien entendu. Mais il réunit des qualités qui ne sont pas toujours réunis chez un chef d'orchestre. D'abord, il possède une maîtrise absolue de ce qu'il veut. On a l'impression qu'il sait obtenir ce qu'il veut obtenir. Et puis, il possède évidemment une maturité incroyable. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cet équilibre subtil qu'il réalise entre précision et souplesse. C'est à la fois très précis, donc tout marche parfaitement. Un test, les pizzicati des cordes, ils tombent toujours où il faut, comme il faut, mais cette souplesse qui arrive à convaincre. Donc vraiment, fabuleux. Moi, j'ai été sidéré par la qualité de ce concert. Ensuite, il faut parler du grand talent de Chad Hoops, le jeune violoniste, qui n'est pas bien vieux lui aussi. Hein. Et donc, alors avec la richesse de son timbre, hein, sa projection, et puis le soin particulier qu'il apporte aux phrasés, aux nuances. Bon, son violon, effectivement, chante un peu comme une voix humaine. Enfin, c'est incroyable. Puis il a le vibrato parfait, celui qu'il faut, ni trop, ni trop peu. Enfin, c'était excellent. Et la première œuvre, The Lark Ascending, donc l'envol de l'alouette, est une œuvre de Ralph Vaughan Williams, donc ce grand compositeur britannique de la fin du 19e et du début du 20e, qui est d'une lumineuse poésie, cette œuvre. Hein, elle est d'une beauté incroyable. Et là, le soliste a manifesté un charme, un choix de couleurs tout à fait impressionnant. Le commentaire orchestral a ajouté cette suavité qu'il faut ajouter dans une œuvre comme celle-là. Ensuite, le concerto pour violon et orchestre en ré majeur d'Erich Wolfgang Korngold, qu'on connaît maintenant bien à Toulouse depuis qu'on y a créé la ville morte il y a quelques années, au Théâtre du Capitole. Alors là, le style est différent, enfin l'impression est différente. Il s'agit d'exprimer une sorte de joie de vivre et d'un bonheur à jouer qui se lie autant dans le jeu du violoniste que dans son sourire et sa complicité avec les musiciens. Il se tourne très souvent vers les musiciens.
Quand il ne jouait pas, il se tournait vers l'orchestre, il avait l'air complètement sur un nuage.
Ah oui, c'était impressionnant. Et alors, ça m'a évoqué ce que disait le compositeur Korngold. Il disait, en dépit de la virtuosité que demande ce final, il est destiné à un Caruso plutôt qu'à un Paganini. Mais je suis heureux qu'il soit joué par Caruso et Paganini en une seule et même personne. Là, il parlait à l'époque de Gachari Fetz. Oui. Mais finalement, Chad Hoops a un peu pris cette direction et il y avait à la fois du Caruso et du Paganini dans son jeu. Enfin, deuxième partie du concert, c'était la 5e symphonie de Dmitri Shostakovich, que l'on connaît bien, que l'orchestre connaît bien, hein, évidemment.
Pour l'avoir beaucoup joué avec Tugan Sokiev, entre
beaucoup,
autres.
Déjà, on était dans un milieu connu. Hein. Alors, cette œuvre, dont on dit que c'était pour se repentir de l'échec de son opéra, Lady Macbeth de Bezenz, que le grand Staline avait fait interdire, parce qu'il l'avait détesté, mais on ne sait pas si la citation que l'on lui attribue est authentique ou pas, où il dit que c'est pour se répondre à des critiques justifiées. Alors on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais enfin c'est pas gênant. Alors cette symphonie, c'est un coup de poing, hein, avec la tragédie, angoisse du premier mouvement, la danse grotesque de l'allegretto avec ce solo du premier violon complètement caricatural, avec un Christy Jesse magnifique, et donc toute une symphonie qui émeut, et surtout je dois dire le largo, qui est vraiment le cœur saignant même de cette œuvre, avec la souffrance extrême, le désespoir infini. Là, l'émotion est à son comble, je dois dire. Hein. Et je dois avouer que j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, hein, pendant cette symphonie. Donc, magnifique, magnifique.
On passe par tous les sentiments pendant
cette
symphonie.
Ah oui, 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 non, mais
peut-être c'est... plus encore ce soir-là.
Oui, exactement.
La façon dont elle a été dirigée et jouée par
Et jouée, parce qu'il faut saluer les solistes des différents pupitres, hein, avec aussi bien le hautbois, la flûte, évidemment, le cor, la clarinette. Vraiment une merveille absolue qui se termine par cette course à l'abîme, avec un la aigu qui, paraît-il, est répété 252 fois. Je dois dire que je n'ai pas compté, mais...
Non, moi non plus.
Mais c'est impressionnant.
J'étais pris par autre chose.
C'est une obsession incroyable. Donc, bravo à tous et bravo à ce jeune chef. Alors, bonne nouvelle pour les absents. Ce concert a été filmé, enregistré et il sera diffusé en différé sur Medici TV et également le 8 octobre à 21h sur Mezzo Live HD.
Triomphe à la fin, plusieurs ovations, rappel, le public debout et les élus aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'élus dans la salle, on ne va pas dire les noms. Sandrine Tilly, vous étiez dans l'orchestre, juste un mot sur ce jeune chef avec lequel vous jouiez, je crois, vous concernant pour la deuxième fois. Vous
étiez aussi au Pays Basque. J'avais joué aussi au début septembre.
Alors, bon, apparemment, l'avis des musiciens est unanime pour dire qu'il est extraordinaire, comme l'a dit Serge Chosy. Est-ce que vous confirmez?
Oui, je confirme qu'il est exceptionnel. En tant que musicien dans l'orchestre, en effet, je rejoins Serge, j'ai une extraordinaire précision, une grande souplesse. Et surtout, il est une source d'inspiration pour les musiciens. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on a fait un concert très inspirant pour du cœur de l'orchestre.
Alors on va avoir un aperçu de la symphonie numéro 5 de Dimitri Shostakovich avec le quatrième mouvement Allegro non troppo interprété par l'Orchestre National du Capitole, mais sous la direction de Tugan Sokiev, puisque je n'ai pas encore d'extrait dans la version dirigée par Tarmo Peltokoski. Quatrième mouvement Allegro non troppo de la symphonie numéro 5 de Dimitri Shostakovich, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tugan Sokiev. Quant à Tarmo Peltokoski, on le reverra quoi qu'il arrive dès la saison prochaine à la tête de l'ensemble symphonique toulousain et on devrait savoir assez rapidement s'il pourrait même en devenir le directeur artistique. Je crois que la balle est vraiment maintenant dans son camp. On termine là-dessus et on va passer à l'agenda de Mélomanie.
Mélomanie, l'agenda.
Seconde partie de cette émission avec Serge Chosy, Robert Pénavert et nos deux invités d'honneur, Sandrine Tilly, flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, et Bettina Sadou, présidente du comité des concours de musique des Onta Clubs de France. Le concours de la flûte traversière, récompensé par le prix France de la chaise mutin, a lieu dimanche 6 novembre à Toulouse, sous la présidence de Sandrine Tilly. Nous allons vous présenter le déroulement de cette compétition dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vais donner la parole à Bettina Sadou. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les Onta Clubs de France et les concours qu'ils organisent ?
Bonjour. Qu'est-ce que c'est donc un Onta Club ? Il y en a beaucoup en France, dans les grandes capitales, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, au Havre, etc. Et c'est un club service international regroupant des femmes et des hommes du monde entier, exerçant des responsabilités professionnelles, qui travaillent ensemble pour bâtir un monde meilleur pour les femmes et les filles. Et ça, ça se présente en différentes activités. Il y a évidemment le volet éducation, c'est-à-dire on essaye de mettre en valeur que les jeunes filles aillent à l'école, c'est important, l'éducation. Mais il y a aussi le soutien et l'encouragement pour des bourses d'études. Et là, il y a des bourses, par exemple, comme Amelia Earhart. Mais il y a aussi la culture. Et la culture, c'est un prix littéraire et le concours de musique qui existe déjà depuis 2008.
Alors, avec un instrument qui change à chaque concours, concours tous les deux ans, c'est pas tous les ans, c'est tous les deux ans, et l'instrument concerné change
à chaque fois. En effet, tous les deux ans, le concours a lieu, sauf malheureusement en 2020, et l'instrument change. On a eu accordéon, harpe, piano, et donc la dernière fois, ça aurait dû être chef orchestre. D'ailleurs, la présidente du jury aurait été Zahia Ziwani, que vous connaissez tous de France.
Réputation.
De réputation, tout à fait. Il faut dire d'ailleurs, on a eu beaucoup de chance et beaucoup de soutien déjà par des présidentes avant. On a eu notamment pendant 10 ans quand même Brigitte Engerer. On a eu d'autres grands noms qui ont toujours soutenu ce concours, qui a été peut-être toujours un petit peu trop discret. Mais on essaye maintenant de donner un rayonnement plus fort et je voudrais vraiment remercier Sandrine Tilly qui cette année donc a accepté d'être la présidente du jury de notre concours qui est consacré à la flûte traversière cette année.
Un concours qui est récompensé par un prix de 4000 euros pour la lauréate.
En effet.
L'entrée est gratuite, on peut vraiment y assister les demi-finales, la finale.
Absolument.
Tout est ouvert.
Tout est ouvert.
Sachant que ça se passe en version un peu, c'est un peu une suite de concerts finalement, de petits concerts.
En effet, parce que les flûtistes ne sont pas seules, elles viennent avec leur pianiste. Et puis nous aussi, on met une pianiste à disposition parce qu'il y a deux candidates qui souhaitaient avoir notre pianiste. C'est un programme, mais là après, je laisserai parler
Sandrine qui va nous l'expliquer, bien sûr.
Qui va nous parler de ça.
Et peut-être un mot sur les critères à remplir pour participer au concours, parce que c'est tout de même très précis. Hein.
Tout à fait. Le profil de la candidate doit être une jeune femme de nationalité française, débutant dans la vie professionnelle, âgée entre 17 et 30 ans et qui a eu donc un cursus dans un conservatoire national supérieur ou l'équivalent à l'étranger. Mais en général, c'est vraiment d'excellence.
6 candidates ont été retenues, donc il y a une présélection. 6 candidates ont été retenues. Est-ce qu'on peut connaître leur nom ?
Bien sûr. Alors, d'abord, on avait lancé un appel. On a reçu 19 candidates. La première sélection s'est faite à la suite avec des vidéos. Le jury a choisi donc 6 candidates, dont 2 qui viennent aussi de Toulouse. Alors, nous avons Camille Schneegans, Manon Gaillet, Nina Reich, Pauline Moretto, Juliette Jolin et Fanny Martin.
Voilà donc les noms des 6 candidates qui ont été retenues pour participer d'abord aux demi-finales, puis après vous allez en retenir, ça c'est Sandrine qui va nous l'expliquer, les membres du jury, dont vous êtes présidente, Sandrine, du jury, qui sont les autres membres, vous êtes combien ?
Alors nous sommes 3, bon, déjà j'en profite pour dire que je suis très heureuse et très honorée d'être présidente de ce concours parce que pour moi c'est très important de toute occasion d'aider les jeunes musiciens, musiciennes et bonne à mettre, à apprendre pour eux, pour nous, parce que c'est très enrichissant aussi en tant qu'aînée, hein, d'écouter tous ces jeunes. Donc je ne serai pas seule, parce qu'un jury est toujours composé de plusieurs personnes. À mes côtés, il y aura Franck Masquelier. Franck Masquelier, c'est un flûtiste qui fait beaucoup de concerts de musique de chambre, qui est professeur en région parisienne et qui est le président de l'association française de la flûte traversière. Donc c'est quelqu'un de très actif dans le milieu de la flûte française. Il se trouve que j'ai joué avec lui il y a longtemps, on faisait du quintet de flûte. Il y aura aussi donc Christine Dresde, qui elle est aussi une flûtiste assez active en musique de chambre, aussi en région parisienne, et qui est professeure dans la région parisienne. Et donc, on a décidé de venir à Toulouse parce que on a réussi à avoir l'opportunité de faire le concours à Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc c'est un écran magnifique pour que les candidates puissent s'exprimer.
Pour le public.
C'est l'occasion de transformer un concours en concert, finalement, parce que pour le public, pour les personnes qui vont venir écouter, je pense qu'ils ne viendront pas vraiment écouter un concours, mais plein de petits concerts. Chaque candidate jouera une demi-heure par épreuve. Donc ce sera vraiment une belle journée de flûte.
Des flûtistes accompagnés par des pianistes. Les demi-finales se déroulent de 9h30 à 14h. Après, je suppose que le jury se réunit pour décider. Vous en gardez combien ? 3 pour la finale ?
Voilà, on a 6 demi-finalistes, donc on va écouter les 6 le matin. À l'issue
vous allez délibérer.
On va délibérer et on retiendra 3 finalistes. Donc la finale sera une sorte de gros concert d'une heure et demie.
De 18h à 20h, bon, je pense que 20h, il y a la remise des prix.
Après, voilà, justement.
Il y a un prix qui aura nous ou il y en a plusieurs ?
Il y a encore un deuxième et un troisième prix. Il y aura aussi un prix, justement, Zonta, encore, où, par exemple, on invite une des candidates de devenir zontienne, si elle le souhaite, parce qu'on va lui offrir la cotisation du club.
Donc, ça va être des extraits de sonates pour flûte et piano, finalement, essentiellement, je suppose ?
Bah, non, pas que,
pas
parce
forcément.
Que les candidates sont, pour certaines œuvres, accompagnées au piano. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de sonates pour flûte et piano, mais aussi de transcriptions, parce que pour la demi-finale, on a imposé une transcription parmi plusieurs. Elles avaient le choix. Et il y a pour chaque épreuve aussi une pièce pour flûte seule. Moderne.
Oui, j'ai vu qu'il y avait des pièces d'André Jolivet, exemple.
Et le problème de la demi-finale est au choix dans une liste, donc n'est pas complètement au choix, donc un peu aiguillé. Par contre, ce qu'on a souhaité faire pour la finale, c'est laisser complètement libre cours aux candidates. Donc en fait, elles ont une demi-heure, elles font ce qu'elles veulent, accompagnées.
Non, c'est pas un nombre de pièces, c'est une durée. Hein.
C'est une durée. Elles occupent la scène pendant une demi-heure. Elle nous propose un programme complètement au choix. Donc, il y a des choses assez classiques, il y a des programmes qui vont être assez délirants, je pense. Et finalement, la conception du programme, ce qu'il y a derrière au niveau de la personnalité de la flûtiste, va forcément compter aussi.
C'est la question que j'allais vous poser. Sur quels critères vous allez juger la prestation de chaque candidate ? Bon, il y a des critères musicaux, la technique, la musicalité, les sonorités, les couleurs, la justesse, bien sûr. Mais il y a aussi, je pense, un aspect vraiment personnalité, voire charisme de chacune d'entre elles.
De toute façon, en musique, comme en art plastique, comme dans tous les arts, on est séduit ou on n'est pas séduit, il y a forcément quelque chose d'un peu impalpable. C'est évidemment les candidates qu'on va retenir pour la finale, ce seront sans doute les 3 meilleures en termes de musique, de sonorité, de technique, tout ça. Mais après, il y a le coup de cœur, c'est-à-dire que il y a la candidate qu'on aura qui va nous subjuguer, c'est-à-dire celle qui va nous tenir en haleine pendant une demi-heure, celle dont le programme va nous séduire particulièrement, celle qui va vraiment occuper la scène, parce que la personnalité musicale, c'est ce qu'on entend, mais c'est aussi la manière dont on ressent la personne sur la scène. À ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et beaucoup de choses qui sont difficiles finalement à décrire.
Et c'est là que parfois les membres du jury ne sont pas forcément d'accord entre eux.
Oui, mais on peut aussi être très d'accord.
On verra ce que ça donnera. Le 6 novembre, bien sûr, une des candidates a mis à son programme, au cas où elle serait finaliste, hein, je ne dis pas laquelle, la sonate de Francis Poulenc, une de vos œuvres fétiches, Sandrine Tilly. On vous écoute la jouer avec votre complice favorite, la pianiste Anne Lobozek.
Thank you.
La sonate de Francis Poulenc, interprétée par le duo Sandrine Tilly-Anne Lebozec, c'est une des nombreuses pièces que vous allez avoir l'occasion d'entendre lors du concours de flûte traversière organisé par le Zonta Club de France à Saint-Pierre-des-Cuisines, dimanche 6 novembre, de 9h30 à 20h. Il y a donc 6 candidates et la lauréate se verra remettre le prix France de la chaise mutin à l'issue de la compétition. Très rapidement, avant de conclure cette émission, nous allons annoncer les prochains rendez-vous avec l'Orchestre National du Capitole à l'Allograin. Il y a d'abord celui du samedi 29 octobre à 18h dans le cadre du cycle des concerts avec Jean-François Zigel. Le célèbre pianiste et vulgarisateur va y présenter son ami Schubert. Oui, il se connaissait bien apparemment. Le programme, je ne vais pas vous le présenter, mais je pense qu'on devrait y entendre à coup sûr la symphonie achevée. Et puis le samedi suivant, le 5 novembre, toujours à 18h, dans le cadre du cycle Happy Hour cette fois-ci, l'Orchestre du Capitole va être dirigé par la chef taïwano-américaine Mei Chen. Le programme est entièrement dédié à Mozart et plus précisément à ses deux dernières symphonies, Serge.
Oui, c'est exactement ça. Alors cette chef donc est établie à Graz en fait, en Autriche. Et là, elle dirige l'orchestre et le festival Styriart. Donc, et là, elle va nous amener vers Salzbourg et Vienne, Mozart, plus Vienne d'ailleurs que Salzbourg, puisqu'elle dirigera les deux dernières symphonies, la 40e en sol mineur, bien connue de tous, et la 41e Jupiter, donc pas mal connue aussi. Et donc, voilà, un programme, comme sont ces programmes de Happy Hour, programme d'une heure à peu près, avec des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique.
Voilà, ces deux dernières symphonies de Mozart, qu'on n'entend pas si souvent que ça, jouer ensemble à l'Allograin en tout cas.
En effet, oui. Quelquefois, on a des surprises. Hein. La cinquième de Beethoven, on dira encore la cinquième, mais il y a très longtemps qu'on n'a pas entendu la cinquième de Beethoven à l'Allograin.
Oui, absolument. Bon, là, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y en a une qui est en sol mineur et l'autre en ut majeur. Donc voilà, ce sont deux ambiances différentes.
Oui.
Voilà, c'est intéressant de les mettre en regard. Et puis, on va découvrir donc, cette chef taïwano-américaine. Je crois qu'il n'est jamais venu à Toulouse.
Non, effectivement. Pas. Elle est actuellement directrice musicale du Chicago Sinfonietta, qui est un orchestre important qui prône la diversité au sein des orchestres. Et elle est également chef d'orchestre lauréate du Memphis Symphony Orchestra. Donc elle a beaucoup de fonctions.
Voilà pour Mei Chen. Un petit extrait de la symphonie numéro 40 pour illustrer le programme du concert du 5 novembre. Le célèbre premier mouvement Molto Allegro, dirigé ici par Leonard Bernstein. Le premier mouvement Molto Allegro de la symphonie numéro 40 de Mozart, interprété par le Vienna Philharmoniker, dirigé par Leonard Bernstein. L'Orchestre national du Capitole joue la 40 et la 41 samedi 5 novembre à 18h à la Halle au Grain sous la direction de Mei Hai Chen. Il s'agit d'un concert du cycle Happy Hour le samedi précédent, ce 29 octobre donc, et également à 18h, concert de ce même Orchestre national du Capitole avec Jean-François Zigel qui va nous faire un portrait en musique de son ami Schubert. Pour ces deux dates, les places sont à réserver et à acheter en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Notez d'autre part les concerts du mois de novembre de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, les 3 et 4 novembre à l'escale de Tournefeuille, puis les 14 et 15 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ces quatre concerts commencent à 20h30 et sont sous-titrés « Bêtes de pub ». Autrement dit, le programme est constitué d'airs classiques célèbres qui ont souvent été utilisés dans des spots de publicité. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et je rappelle enfin que le concours de flûte traversière organisé par les Onta Club de France a lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines dimanche 6 novembre, demi-finale de 9h30 à 14h, puis finale de 18h à 20h. L'entrée est gratuite et le prix France de la chaise mutin d'une valeur de 4000 euros sera remis à la lauréate à l'issue de la compétition. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.zontaclubdefrance.com. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.